Bienvenue dans le 28e épisode du podcast de Contournement. Moi c'est Alexis et chaque semaine je reçois des invités passionnants pour parler des technologies no-code et surtout de ce qu'on peut faire avec. D'ailleurs, si vous voulez vous y mettre, on propose aussi des formations à plusieurs de ces outils et qui sait, peut-être qu'un jour c'est vous que j'interviewerai dans ce podcast. Mais d'ici là, je vous présente Patrice Cassard, un entrepreneur et précurseur de ce qu'on appelait le Web 2.0. Alors si vous avez été cool dans les années 2000, peut-être que vous avez acheté un t-shirt sur lafraise.com ou alors plus tard des chaussettes Archiduchesse. Depuis plusieurs mois, Patrice s'est mis à fond sur le no-code et partage ses expérimentations sur son compte Twitter. J'ai suivi tout ça avec beaucoup d'intérêt et finalement je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on en parle ici. À mon avis, vous n'allez pas être déçus par le parcours de cet autodidacte créatif et inspirant. Bonjour Patrice, merci d'avoir accepté mon invitation pour échanger ensemble sur le podcast. Décidément, je suis pas encore bien réveillé. Alors, ça fait un moment que je voulais te proposer de venir, et puis j'osais pas trop au début, j'ai commencé à t'intéresser au no-code, j'ai attendu le bon moment, puis j'ai vu que tu commençais à vraiment publier beaucoup de choses sur Twitter, tu faisais des looms même, où tu présentais un peu des choses que tu avais prototypées. Je me suis dit, bon, quand même, t'es temps qu'on parle de tout ça. Donc voilà, t'es un vétéran vraiment de l'entrepreneuriat numérique. Je sais pas si
c'est... Dinosaure, même.
Non, j'aime bien un vétéran, tu vois, ouais. Ça fait un peu genre aussi d'avoir des grades, tu vois, mais l'idée est pas de dire que... Non, mais c'est vrai que l'histoire du web, finalement, est pas si vieille que ça, mais tout va tellement vite qu'on a l'impression que, voilà, des choses qui se sont passées dans les années 2000, c'est déjà un peu la préhistoire. Une époque où on parlait du web 2.0, des choses comme ça. Donc tu vas nous raconter tout ça. Ouais. Justement, on va revenir un petit peu sur ton parcours d'entrepreneur et puis voir ce qui t'a amené au no-code, un peu ta vision de ces technologies et puis peut-être justement ce que ça t'a inspiré pour des nouveaux projets. Donc voilà, pour bien commencer, je vais te laisser tout simplement te présenter et commencer à nous raconter un petit peu tout ça.
Ouais, je m'appelle Patrice, j'ai 49 ans, j'ai deux filles, et je fais du web depuis 98, je crois, enfin 1998, et j'ai monté en fait plusieurs boîtes que j'ai soit revendues, soit arrêtées, parce que... Donc la première c'est lafraise.com que j'ai monté en 2003 et que j'ai revendu en 2006. C'était un site de vente de t-shirts, fait par des graphistes où les gens pouvaient voter, etc. Et puis après j'ai pris 3 ans en fait de break et j'ai monté en 2009 archiduchesse.fr qui est un site de vente de chaussettes fabriquées en France et que j'ai revendu en 2012. Ensuite, j'ai repris en fait un break de quelques années, et puis j'ai monté une boîte qui a pas marché, en fait, enfin qui marchait pas suffisamment en tout cas, et qui m'intéressait pas spécialement. En fait, c'était super bécane, c'était des articles de vélo un peu sympa pour les cyclistes urbains. Et donc là j'ai même eu en fait le site et des boutiques physiques, enfin une boutique après l'autre. Hein, mais du coup voilà. Donc ça s'est arrêté il y a 2 ans ou 1 an et demi. Et voilà. Et alors, mais maintenant, je cherche une nouvelle idée et en attendant de la trouver, enfin, en parallèle, en fait, je m'intéresse effectivement beaucoup au no-code.
Ok, on va revenir un petit peu sur ces différents points. En fait, moi déjà, il y a une question que je me posais, c'était de savoir un petit peu ton background avant d'être entrepreneur.
Alors,
enfin, si tout est un peu lié, mais je sais pas ce que tu as fait comme études, est-ce que tu es développeur à la base, designer, je sais pas.
Non, pas du tout. En fait, je suis autodidacte à 100% parce que j'ai arrêté l'école en première.
Ok.
Et donc j'ai même pas le bac. Et puis j'ai commencé en fait, je suis parti à l'armée, j'ai commencé à travailler là où je pouvais en fait. Sans le bac, c'était pas évident. Et puis de fil en aiguille, je vais pas te faire le déroulé de tout ce que j'ai fait avant, mais en fait j'ai fini par atterrir en fait dans un supermarché où je vendais en fait des ordinateurs. Et en amont de ça, l'informatique m'a toujours passionné. Hein. C'est pas, j'ai, quand j'étais petit, j'avais un Commodore 64. Enfin, c'était une passion, si tu veux. Et puis
d'accord, t'avais quand même quelque chose qui t'a amené vers tout ça, quoi.
Ouais.
Donc, c'est pas les études pour le coup, mais
non, c'était la passion en fait de l'ordi, quoi. Et donc j'ai vendu des ordi, et puis après en fait j'ai fait une formation pour faire des sites web, mais ça devait être je sais pas en quelle année, en 97 ou un truc comme ça. Puis j'ai été recruté par une boîte à Châlons-en-Champagne pour faire des sites, mais à l'époque c'était vraiment très très basique, hein. C'était il me semble qu'on les faisait avec Frontpage ou peut-être Dreamweaver à l'époque, je sais plus.
Donc déjà du no-code.
Ouais. Mais je pense que j'ai utilisé tous les outils no-code préhistoriques, c'est-à-dire que, enfin, que ça soit Dreamweaver, FrontPage, il y en a même un en fait que j'ai utilisé qui existe quasiment plus, c'est PHP Nuke. Bref. Et donc du coup, j'ai bossé là-bas, dans cette agence pendant un an, et puis un an ou peut-être même un peu plus. Et en 99, j'ai été recruté par une boîte qui s'appelait Ludi Games, en fait, qui est devenue Gameloft par la suite.
En fait,
c'était un des frères Guillemot qui avait monté ça, donc j'étais engagé à l'ouverture de la boîte, et je m'occupais du site web et du web en général. Et comme en fait cette boîte a mis très longtemps à décoller, parce que le marché n'était pas prêt, en fait, le but c'était de faire des jeux sur les téléphones portables, sauf que les téléphones portables de l'époque, en fait, ils supportaient absolument rien à part le Snake, quoi. C'est-à-dire que c'était vrai, ils se sont vraiment positionnés en amont. Et donc je suis resté là-bas un an ou deux ans, je sais plus. Et comme en fait il n'y avait pas de marché. Mais que j'étais payé pour faire le site. Une fois que j'ai eu fait le site, j'avais pas grand chose à faire si ce n'est de la veille. Et c'est ce que j'ai commencé à faire en fait sur les téléphones mobiles, donc pour que ça rejoigne un peu le thème de la boîte. Et donc j'ai créé en fait une sorte de communauté en fait de fans de téléphones. Et c'est une sorte de blog en fait, où je mettais les infos que je trouvais, etc. Je faisais de la veille.
Il y avait aussi un forum, un truc comme ça, pour que les gens puissent échanger, ou c'était
non,
toi
en
qui...
Fait, c'était vraiment sous le format d'un... à l'époque, ça s'appelait pas vraiment un blog, mais en fait, en gros, je sais plus avec quoi je l'avais fait, mais en gros, je postais les infos, et puis on commentait en dessous, en fait, il y avait des commentaires, donc on discutait en dessous.
D'accord. Et
un truc marrant, par exemple, un des premiers participants de cette communauté, c'était Eric Dupin, qui a monté Pressing après.
Ouais. Ah oui, bien sûr. Lui, pour le coup, est devenu un blogueur influent dans la tech. Je crois qu'il a arrêté d'ailleurs.
Il y a quelques mois, en fait. Il a gardé que sa newsletter, je crois. Et puis après ça, en fait, comme je m'intéressais vraiment au mobile, qui s'appelait pas encore les smartphones, mais ce qui allait arriver, en fait, Microsoft, en fait, sortait un modèle de téléphone. Et du coup, ils m'ont un nouveau modèle de téléphone qui s'appelait le, je me rappelle plus du nom, mais c'était un des premiers smartphones en fait. Donc du coup ils m'ont fait passer en fait une sorte de diplôme. Enfin ils appellent ça MVP en gros. C'est c'est les personnes qui sont le plus calées sur un sujet. Donc je suis parti aux US pendant une semaine ou deux. Et puis et du coup en fait ça m'a permis quand j'ai quitté en fait Ludi Game d'être consultant, notamment pour Orange, sur le sujet en fait de ces téléphones-là. En fait, ils n'avaient pas réellement l'expertise, notamment au niveau du support, etc. Et du coup, quand il y avait des questions un peu techniques ou un peu complexes, c'est moi qui prenais la main, je répondais aux clients, etc. Et c'était une mission qui avait été très bien payée, qui a été très bien payée. Du coup, avec l'argent que j'ai gagné en faisant ça, je me suis dit j'avais pas envie de continuer à faire ça. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de monter une boîte. Et donc à l'époque, je regardais un peu ce qui se faisait aux US, et je suis tombé sur ça s'est pas passé comme ça. J'ai monté un site de vente en ligne en m'appuyant en fait en partie sur la communauté que j'avais acquise avec le précédent site sur les téléphones. Parce qu'il y avait, un petit bassin, il y a peut-être 1000 personnes ou peut-être même pas.
C'est pas mal pour commencer. Ça permet de démarrer avec déjà une petite audience ou quelques gens à
consulter. Surtout à l'époque, parce que c'était il n'y avait ni Facebook, ni Twitter, ni rien. C'est-à-dire que si tu posais un site dans un coin, personne ne le voyait, quoi. Avec ce que j'avais gagné, en fait, j'ai monté ce premier site qui s'appelait déjà La Fraise, mais qui n'était pas sur le principe, en fait, de La Fraise. En fait, c'était, je vendais, en fait, des... ça ressemblait, en fait, je ne me rappelle plus du nom de ce site américain qui vend... c'est ThinkGeek, je crois, qui vendait, en fait, que des accessoires en fait pour les geeks, pour les nerds en fait.
Des mugs avec Doctor Who dessus, des t-shirts,
le couteau suisse avec la clé USB à l'époque, etc. Enfin voilà. Donc ça, j'ai monté ce site. Je m'étais stocké un peu. J'avais fait faire quelques t-shirts. Je dois en avoir 5 ou 6 modèles. Et pendant 6 mois, je crois, peut-être même un peu moins. Ça a marché, en fait. Je vendais, en fait, des trucs. Donc, j'expédiais les commandes.
Et donc, ça, tu faisais ça tout seul, quoi. C'était, tu faisais la logistique, ouais. T'avais ton petit stock chez toi. Et puis,
chez moi, j'avais un grand appart parce qu'on était à Saint-Etienne à l'époque. Donc, les loyers sont pas chers. Donc, on avait un immense appart et il y avait vraiment de quoi stocker et me faire mon bureau. Et puis, donc, j'ai ça pendant 6 mois ou un peu moins. Et en cours de route, en fait, en faisant de la VR, en regardant ce qui se trame aux US, je tombe en fait sur un site qui s'appelle Treadless, et je comprends pas tout de suite le principe, en fait, parce que c'est à l'époque c'était pas courant. Et en gros, c'était donc des graphistes qui postaient des visuels sur le site. L'ensemble des gens, donc graphistes, clients potentiels, votaient sur ces visuels, donnaient une note s'ils aimaient, s'ils aimaient pas. Et Treadless, en fait, faisait imprimer les t-shirts qui avaient les meilleures notes. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, le concept est génial. Il y a pas vraiment d'équivalent en France. Enfin, il y en a même pas du tout, en fait. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, c'est ce que je veux faire. Et du coup, j'ai pivoté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai coupé le site pendant quelques mois. Et j'ai fait développer, en fait, par un gars que j'avais rencontré à Saint-Etienne qui a fini par monter Axome, en fait, qui fait les sites marchands maintenant. Enfin, il en faisait déjà à l'époque, mais il faisait plutôt plus des sites génériques. Et donc, comme c'était le seul développeur que je connaissais, je lui ai dit, fais-moi ça, et puis, à la place de te payer, je te file une com je te file un pourcentage de la boîte. Non, c'était une com à l'époque. Une com sur les ventes.
Sur chaque vente. Ouais.
Il trouvait que le concept était marrant, donc il a développé le truc. Et on en a mis en ligne, et je crois que le premier mois, j'ai gagné... en gros, le site était à l'équilibre dès le premier mois. Je me rappelle plus les chiffres exactement, mais et mois après mois, c'est monté. En gros, le site s'est auto. J'ai rien eu à faire. Enfin, à l'époque, il y avait pas de Facebook ni de pub ni d'AdWords à mettre. Mais le site a fonctionné de mieux en mieux pendant 3 ans.
C'était une croissance vraiment organique, quoi. Mais alors, juste pour rappeler aux gens, parce que moi j'ai connu, Treadless, je me souviens, parce que moi j'avais pas mal d'amis designers en plus, donc pour eux, enfin pas Treadless, mais La Fraise, pardon. Et donc, je pense que même j'en ai un ou deux qui ont dû envoyer, je sais plus, je me souviens plus s'ils ont eu des t-shirts qui ont été imprimés, mais qui ont postulé, tu vois, enfin qui avaient envoyé des visuels, parce que je pense qu'à l'époque c'était devenu quand même quelque chose d'important pour les graphistes, quoi.
Les deux premières années, on va dire que c'est que ça permettait aux graphistes, en fait, de montrer leur boulot. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait rien de vraiment structuré. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, en fait, Behance ou Dribbble, etc. C'est-à-dire qu'en gros, les graphistes, ils avaient un portfolio. Si on tombait pas dessus, on le voyait pas, quoi. Et du coup, en fait, ça leur permettait, d'avoir une certaine visibilité, c'est-à-dire que les clients des t-shirts, en fait, n'étaient pas forcément, en fait, que des clients des t-shirts. Ils pouvaient avoir des boîtes ou des choses à leur faire. Et ben, sous chaque profil, il y avait le lien vers le portfolio, etc. Après, ils étaient payés si jamais le t-shirt était imprimé. Hein, c'était pas non plus que ça le truc.
Bien sûr, non. Et du coup, parce que là-dedans, je trouve qu'il y a une mécanique assez intéressante aussi. Je sais pas si c'était calculé ou pas. Enfin, mais tu vois, du fait que du coup, les graphistes vont aussi être amenés un peu à peut-être faire la promotion du site, à ramener des gens sur le site pour voter pour eux, ou tu vois, un espèce de...
Ouais, et puis la mécanique, je peux dire qu'elle était ultra bonne, mais parce que c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, c'est Treadless, mais elle était imparable. Mmh. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, en fait, les graphistes partageaient le plus possible le lien vers leur visuel pour qu'il soit noté, donc ça faisait venir des gens sur le site. Le fait qu'il y ait une note, en fait, sur le t-shirt, de notre côté, en fait, nous indiquait, en fait, la façon dont
la viabilité que ça allait avoir de la vente,
quoi. C'était une série limitée de 500 pièces, donc qui était quasiment jamais réimprimée. Enfin, il y a peut-être eu une fois ou deux, mais globalement, c'était 500 pièces et c'est terminé. Et en gros, il y a certaines séries, quand elles dépassaient une certaine note, on savait, en fait, qu'on les mettait même pas sur les étagères, parce qu'en fait, elles partaient, en fait, dans la journée ou sur 2 jours.
Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'il y avait tellement d'attentes.
Enfin, tous ceux qui avaient voté, en fait, tous ceux qui avaient mis une note, on va dire, au-dessus de X, enfin, au-dessus de
Ah, donc, ils allaient acheter. Voilà,
ouais. Ils étaient déjà clients, donc ils attendaient.
C'est quasiment de la précommande. Enfin, c'est hyper intéressant. Ouais. J'ai même pas réalisé jusqu'à ce point-là, quoi.
Non, c'était un, et puis en plus, comme à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, en fait, les gens venaient discuter en fait sous les visuels y avait un blog en fait, donc on discutait en fait sous les articles du blog ou sous. Et c'était en fait. C'était vraiment une communauté, quoi. En fait, d'ailleurs, c'était une communauté à tel point qu'on se retrouvait, en fait, on a fait deux ou trois événements, on se retrouvait en vrai dans des bars, on venait à Paris, en fait, et puis on retrouvait les graphistes, les clients, etc. Donc c'était vraiment drôle.
Génial. Non, mais c'est intéressant, parce que comme tu dis, il n'y avait pas encore les moyens d'acquisition qu'il y a actuellement. Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait des pubs sur Facebook, sur machin, quand ils démarrent leur activité. À l'époque, déjà, c'était pas possible. Mais je pense qu'en plus, ça reste quand même un super moyen, quoi, d'engager les gens pour des bonnes raisons. Enfin, tu vois, en fait, c'est un peu le Graal. Enfin, c'est ce que, à l'époque, on a commencé à appeler le web 2.0, quoi. Qui après, c'est devenu le truc, genre, dis, bon, bah, ok, si j'arrive à amorcer cette communauté, bah, un phénomène d'entraînement. Ouais, un cercle vertueux, ouais, quoi, où plus t'as de gens, plus t'en as des nouveaux, etc.
Sauf qu'en fait, enfin, à l'époque, en fait, il y avait, en proportion, assez peu de projets, si tu veux. Donc, ce qui a tué un peu ce modèle, en fait, c'est que les gens, en fait, se sont éparpillés. Enfin, il y a autant de gens, mais en fait, ils se sont éparpillés, en fait, sur plein de plateformes, sur plein de projets, sur plein, enfin, et du coup, si tu veux, c'est bien plus difficile, en fait, maintenant, de se faire entendre. Qu'à l'époque, si tu veux, enfin, pour peu que ton projet soit sympa, déjà t'avais de la presse en fait, de la presse web, hein, mais t'avais donc les gens parlaient de toi, et puis en plus il y avait pas tellement d'endroits où aller en fait pour enfin voilà, donc si tu veux ça concentrait en fait l'audience, quoi.
Ouais, bien sûr. Ouais, pareil pour les graphistes. Si aujourd'hui il y a plein d'endroits, comme tu disais, tu parlais de Dribbble, Behance, etc., ils vont être un peu partout, mais ils vont pas investir la même énergie à faire connaître leur truc, quoi. Donc du coup après, donc toi t'as revendu ça, et puis t'as entamé après un autre projet, enfin quelques années plus tard. Ah, Archiduchesse.
Ouais, Archiduchesse. En fait, donc en gros, en fait, Archiduchesse. Enfin, parce qu'en fait. Je l'ai tout est lié, en fait. C'est marrant parce qu'en fait je pense que c'est comme ça, mais pour tout le monde, mais le fabricant d'Archiduchesse, en fait, c'était un client de La Fraise, et juste avant que je vende, je crois, il m'avait en fait envoyé un mail. Je le connaissais pas, hein, il m'avait envoyé un mail en me disant voilà, je suis fabricant de chaussettes, mon grand-père a monté cette usine, machin. Et est-ce que tu penses pas que ce serait marrant, en fait, de faire des chaussettes en coordonnées avec les t-shirts. Alors à l'époque, je lui ai dit bah non, moi ça me plaît pas trop, ça fait un peu carterie, quoi. Enfin, mais on avait gardé contact. Enfin, il était sympa, si tu veux. Donc et puis entre temps, enfin juste après, je vends à Spreadshirt, et je pars en fait de France. En fait, je suis parti en Guadeloupe pendant un an et quelques, histoire de profiter un peu, quoi. Mais en fait, bon, c'était pas non plus une super idée, mais bon. Et puis là-bas, en fait, on se demande, avec ma femme, on se demande ce que je pourrais faire, en fait, comme nouveau projet. Donc, et puis je repense à ce fabricant. Donc, on commence à faire des brainstorming pour savoir si, on regarde en détail, savoir si le marché, enfin, comment est le marché, s'il y a des marques, des machins en ligne, etc. Et puis on trouve que c'est un peu tristouille, ce qu'il y a, en fait, que l'offre est un peu tristouille. Donc déjà on se dit bon bah potentiellement il y a peut-être un truc à faire. Et puis après on était rentré en France, et là on a fait une sorte de gros apéro, en fait, avec ma femme, mon beau-frère, etc. Et puis on a cherché des noms, et donc tout en les cherchant, on regardait si c'était pris, pas pris, etc. Et on est tombé, enfin c'est ma femme qui l'a trouvé, mais on est tombé sur archiduchesse.fr, qui était c'était le .fr ou le .com, un des deux, je sais plus, qui était libre, donc je l'ai déposé. Et puis le point, enfin, et l'autre, en fait, le pendant, le .fr ou le .com, je sais plus, était à une boîte, mais qui avait, enfin, ils avaient rien mis depuis,
voilà, on faisait rien.
Voilà. Donc du coup je l'aurais racheté. Et donc comme on avait le nom et potentiellement en fait une place à prendre, du coup on a réfléchi à un concept, et puis on s'est dit bah moi les chaussettes, enfin toute l'offre, en fait, c'est plutôt du noir, du gris, du marron, et moi je mets des baskets toute la semaine, donc c'est pas très beau avec les baskets, surtout que les baskets elles sont, enfin parfois il y a des couleurs dessus, quoi. Et je me suis dit bah ce qui serait marrant de faire, c'est une offre de couleurs, en fait, induplicable en retail. C'est-à-dire que si t'as 50 couleurs en fait de chaussettes, tu les auras jamais au supermarché, puisqu'en fait ils ont pas assez de place, puis ça va. Enfin, pour le peu de vente du jaune, enfin ils vont préférer mettre que du noir et du bleu marine. Quoi.
Ouais, c'est intéressant cet angle d'utiliser le levier, on va dire, du web, le fait que t'as pas de présentoir, enfin le côté physique, pour le concurrencer, enfin je sais pas, pour avoir un argument.
Ouais, tu peux en fait, c'est ça, en fait, tu peux faire des offres en fait qui sont infaisables en retail. Il y a plein de sites qui sont sur ce modèle, mais voilà. Et puis du coup, je suis allé voir le fabricant à Limoges. Puis on a bien accroché. En fait, lui, à l'époque, c'est son grand-père qui a monté cette usine dans les années 30, je crois. Et son père l'avait reprise. Sauf que son père, au moment, en fait, vers la fin de sa carrière, en fait, c'était les années, peut-être pas la fin, mais c'était les années 80. Et c'est le moment où sont arrivées les grandes surfaces. Et les grandes surfaces, eux, les prix en fait de la fabrication française étaient trop élevés pour eux, donc ils voulaient moins cher. Donc son père a commencé en fait à délocaliser une partie de la production. Et quand moi je suis arrivé, lui il était dans une usine vraiment à bout de souffle. Il restait plus que, je sais pas, 20 machines qui fonctionnaient. Et il se demandait en fait s'il allait pas fermer en fait la production française, quoi. Et de fil en aiguille. Enfin, de fil en aiguille, en fait, il a accepté en fait de produire 50 couleurs, ce qui était en fait techniquement en fait un peu chiant pour lui, parce qu'en fait il fallait en fait démonter les bobines, etc., machin. Mais il a pris le risque en fait pour voir ce que ça donnait. Puis comme il était client de La Fraise, en fait, il savait que j'allais pas faire un truc tout pourri. Et du coup, on a lancé le site avec les 50 couleurs, et c'est pareil, le site, commercialement, ça a été rentable dès le premier mois. Et puis après, on a fait grossir en fait le nombre de références. Et voilà. Et puis comme les chaussettes, c'est un produit récurrent sur la, généralement les gens en achètent une fois par an, quoi. Mais les clients qu'on gagnait, ils recevaient les chaussettes qui étaient en dessous du prix du marché pour de la fabrication française. Ils voyaient que c'était qualitatif, qu'elles étaient, qu'elles tenaient bien sur la durée, etc. Ils en recommandaient. Et puis quand quelqu'un leur demandait en fait, ils en parlaient autour d'eux. En fait, on avait des commandes de famille, de gens de la famille, etc. Et donc ça a fait grossir. Après, c'était pas non plus le chiffre n'était pas non plus faramineux, hein, parce que la troisième année, on faisait 600 000 euros. Donc c'est pas non plus, si tu veux, c'est pas le slip français, quoi, mais en tout cas, c'était viable, quoi.
Moi, ce que je me souviens, assez bien, comme je disais, hein, mon meilleur ami est designer, et donc je passais beaucoup de temps dans leur agence, Archiduchesse, c'était vraiment pour eux un exemple en termes de communication et de community management, quoi. Il y avait chose toujours très très sympa. Enfin, je trouve que il y avait un petit peu ce côté aussi communauté, c'est-à-dire t'avais l'impression que t'achetais pas non plus juste les chaussettes pour les couleurs, c'était aussi la marque et le fait de participer à ça. Et nous, c'est vrai qu'on regardait beaucoup ça comme exemple. Là, pour le coup, il y avait déjà les réseaux sociaux. Si je me souviens bien, il y avait déjà une page Facebook, etc., tu vois. Et la manière dont vous animiez ça était hyper cool,
en fait. C'était en 2009, la première année, donc il y avait déjà Facebook. Je le faisais déjà en fait sur La Fraise, c'est-à-dire qu'en fait le blog en fait racontait l'histoire de la boîte, si tu veux, mais en fait c'était l'histoire de la boîte, enfin c'était plus en fait les conneries qu'on faisait, parce qu'on était trois en fait, enfin il y avait mon beauf et un de mes potes, et donc c'était plus les conneries qu'on faisait, ou enfin c'était des trucs un peu anecdotiques, plus tous les mois en fait je mettais le chiffre d'affaires, et donc j'ai continué à le faire en fait sur le nombre de ventes, etc., et donc les gens voyaient le truc grossir, et j'ai continué à le faire sur Archiduchesse. Et c'est marrant parce qu'en fait je suis tombé en fait l'autre jour sur un site, je me rappelle plus, c'est un site américain, c'est une communauté de mecs qui montent c'est des indie hackers, et ils sont regroupés, et ils mettent tous leurs chiffres, toutes leurs données, toutes les c'est un biais vachement intéressant pour que les chiffres soient bons ou mauvais, en fait c'est intéressant pour le client, je trouve. Enfin, il y a un côté même si les chiffres sont démentiels, sont énormes. Je trouve que c'est un attrait en fait de voir ça. Quoi.
Ah, c'est la transparence quoi. Mais effectivement sur Indie Hacker, donc il y a une communauté de gens souvent solo qui font des projets, ils partagent leurs tous les milestones, donc les jalons en fait. Oui, j'ai dépassé 1000 euros de revenus annuels, etc. Ouais, mensuel puis annuel, enfin ou et il y a en fait il y a même un peu dérivé de ça, mais c'est lié. On a un mouvement qui s'appelle Open Startup, ouais. Il me semble, où en fait tu peux rajouter une page sur ton site.
C'est Open Startup que j'ai vu.
Oui, ah d'accord.
Ils mettent carrément en fait leur, enfin c'est un tableau de bord en fait.
Ouais, c'est ça qui est partagé, qui est transparent, ouais. Et c'est vrai que c'est génial quoi. Enfin nous on pense à faire ça aussi pour Contournement par exemple, mais c'est vrai que c'est surtout pour des un peu startup et tout. Enfin je pense que c'est rassurant pour les clients, ça motive aussi soi-même, ça permet de s'exposer quoi, de se dire ok bon maintenant que les chiffres sont publics, il faut que je me bouge un peu aussi. Enfin il y a plein de bonnes raisons de le faire, mais ouais non d'accord, ça par contre je me souvenais pas que vous faisiez ça déjà effectivement.
Et puis je pense que c'est ça apporte du trafic en fait, parce que les gens sont friands en fait de ça quoi, et même s'ils arrivent sur la page juste pour voir les chiffres, ça n'empêche pas qu'ils sont sur ton service ou ta boutique, et du coup ils sont potentiellement clients quoi, ils seraient pas venus sinon quoi.
Ouais non c'est clair, je pense que ça a encore un autre intérêt aussi pour toutes les startups, les logiciels en SaaS, c'est-à-dire qu'ils sont en ligne, parce que ça peut être aussi rassurant, quoi. C'est-à-dire sur la qualité d'un service, savoir le nombre de clients. Parce que c'est vrai que des fois, on va arriver sur les outils no-code. Mais tu vois, il y a des outils no-code maintenant qui sortent tous les jours. Et on a, tu te dis, bon, ok, est-ce que si je commence à investir un peu dessus, à l'utiliser, est-ce que demain, il va pas mettre la clé sous la porte, quoi. Donc, d'avoir un peu de chiffres, un peu de data, ça permet aussi d'alimenter cette réflexion, quoi.
Ouais, non, c'est vrai.
Est-ce que tu veux parler peut-être un petit peu justement de la dernière expérience?
Bon, en fait, de Superbécan, tu veux dire? Ouais, bah en fait, donc après avoir vendu en fait Archiduchesse, je suis parti, enfin bon, pas immédiatement, mais je suis parti à m'installer à Noirmoutier, c'est une île en Vendée. Et puis, donc à chaque fois, si tu veux, je fais une sorte de break, mais parce que, enfin voilà, ça se passe comme ça. Et là-bas, j'ai fait construire une maison. Enfin, une petite maison, et puis j'ai voulu louer une boutique en fait pour faire mon bureau qui était sur le port en fait, et la vieille dame en fait qui habitait juste à côté de la boutique qui elle appartenait en fait a pas voulu me la louer, et par contre elle a voulu elle voulait me la vendre, et donc ça a mis 2-3 mois, donc je sais plus combien de temps, mais j'ai fini par racheter en fait les murs, et une fois que j'ai eu ces murs là j'ai mis mon bureau dedans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire, en fait, là-bas, quoi. Et en fait, là-bas, c'est une île où c'est comme l'île de Ré, c'est comme toutes les îles. Les gens se déplacent en vélo, majoritairement. Donc, si tu veux, j'en voyais passer, en fait, toute la journée, en fait, devant ma vitrine. J'étais assis à mon bureau. Et je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dedans. Donc, j'ai cherché, voilà. Puis, j'ai monté ce truc. Non, mais si tu veux, c'était plus, en fait, il y avait un petit côté opportuniste, en fait, parce qu'en fait, je fais pas spécialement de vélo. Si tu veux, je suis pas un fan de ça. Et puis c'est plus aussi parce qu'il fallait que je fasse un truc, et puis donc j'ai créé cette boutique physique, j'ai créé le site, la boutique physique à Noirmoutier, qui était très sympa, hein, mais après en fait le commerce retail, je le conseille à personne quoi, c'est une punition, hein. il faut être là-bas, non mais c'est vrai, il faut être sur place tout le temps, les clients sont pas tous super sympas, tu vois, c'est pas et puis tu vends, enfin si tu veux, après avoir tenu des e-commerce qui marchaient quand même pas trop mal, là tu te dis putain je me fais chier pour pas grand chose quoi, et puis je suis reparti, enfin de Noirmoutier en fait je voulais repartir à Lyon parce qu'en fait mes filles et ma femme en fait sont étaient restées ici, et je voulais revenir à Lyon, et puis un ami d'enfance en fait qui venait d'être licencié en fait m'a dit bah si tu veux on fait l'essai à Lyon parce qu'en fait il y a plus de, le marché est plus grand, enfin parce qu'en fait elle est à Noirmoutier, si tu veux tu vendais que en saison quoi, c'était juillet ou enfin juin juillet août septembre quoi, et il me disait bah le marché serait quand même plus consistant ici, donc viens on cherche une boutique ici et puis on met le truc, donc on a fait l'essai, et ça a pas été bien plus concluant, si tu veux, c'était la même punition, enfin il fallait y être tous les jours, et pour pas non plus, enfin ça a jamais réellement décollé, si tu veux, donc au bout d'un moment je me suis dit bah t'entête pas, vas-y ferme le truc et puis passe à autre chose, parce que c'est et voilà.
Mais c'est marrant ce que tu disais sur le commerce retail physique, quoi, par rapport au e-commerce. Je trouve que tu vois, c'est un peu qui te double, c'est-à-dire que voir les gens quand t'as des bons clients, ça fait plaisir.
Ouais, tout à fait, ouais.
Par contre, c'est vrai que quand quand les gens sont un peu chiants, qui sont pas contents, qui veulent négocier, toutes ces choses-là. Le côté e-commerce, il te protège un peu de ça. Enfin, bon, tu reçois des emails pénibles, etc. Mais je sais pas, il y a une distance. Déjà, la personne n'est pas en face de toi littéralement. Tu réponds aux mails quand tu veux. Alors bon, tu dois, quand t'as du e-commerce, t'as aussi certaines contraintes, hein. Tu vois, ça s'arrête pas le week-end, ni rien, mais c'est, je trouve que c'est un bon point.
En fait, si tu veux, en fait, là, le truc, c'est que quand tu fais du commerce retail, en fait, tu peux traiter un client par un client. C'est-à-dire que, alors qu'en, enfin, en e-commerce, il peut y en avoir 1000 dans ta boutique. C'est peu importe, quoi. C'est pas, et puis après, bon, après, il faut avoir la fibre. Alors, moi, je suis pas un mauvais commerçant, si tu veux, mais ça me passionne pas non plus, si tu veux. C'est pas,
Ouais, puis sur les 1000, la proportion de gens un peu chiants en e-commerce, je pense, c'est moindre parce que il y a la distance. En fait, il y a les gens, j'étais vendeur à la Fnac, par exemple. Bah, quand les gens, ils sont en face de toi, il y a des gens, malheureusement, ils ont du temps, quoi. Juste, donc, ils vont te tenir la jambe. Et en ligne, t'as moins ça, tu vois. Alors, nous, on a un chat, par exemple, sur le site. Il y a des gens qui nous posent un peu des questions toute la journée. Mais je sais pas, c'est moins pire que si j'avais la personne en face de moi, tu vois.
En fait, vraiment, qui voulait plus partir. Tout con, c'est que, par exemple, en fait, tu réponds pas à une question, en ligne. Enfin, tu peux ne pas répondre à une question, si tu veux.
Exactement.
Si elle te paraît pas appropriée ou si, ou si tu sens que t'as pas besoin de répondre, tu réponds pas. Et alors qu'en vrai, tu vois, c'est assez risqué, si tu veux, de regarder la personne et de tourner les pages.
C'est clair. Et bon, avant qu'on parle de nos codes, il y a un autre truc que je remarque qui est intéressant. J'ai l'impression que quand t'as fait, justement, t'as lancé des entreprises, en fait, plusieurs fois, j'ai l'impression, alors, je sais pas, hein, peut-être c'est une analyse, que t'as acheté, on va dire, des assets, ou je sais pas comment, enfin, tu vois, un nom de domaine ou une boutique avant même vraiment d'avoir l'idée, quoi.
Ouais, je sais pas, enfin, en fait, mais ça, en fait, je le garde même maintenant, mais je suis pas certain que ça soit une très très bonne idée, désormais, si tu veux. Enfin, effectivement, si tu veux, à chaque fois, en fait, je réfléchis au concept, je trouve le nom, enfin, les deux fois précédentes, c'est ça, en fait, je réfléchis au concept, je trouve le nom, notamment pour Archiduchesse, ça s'est vraiment passé comme ça, et puis même pour plein de petits projets que je fais à côté, etc. C'est ça, en fait. Mais je pense je pense que c'est pas une bonne méthodologie, parce qu'en fait, tu t'éparpilles, en fait, j'ai je sais pas combien de noms de domaine, en fait, que j'achète, si tu veux, dès que je trouve un début d'idée, je me dis, tiens, je vais chercher, voir ce qu'il y a, et je tombe sur un bon nom, ou un nom, et hop, je rachète. Et si tu veux, et j'en ai certains, si tu veux, qui m'empoisonnent un peu la vie. Par exemple, j'ai 14juillet.fr.com, enfin, 14 en chiffres, 14 en lettres, j'ai les 4. Et si tu veux, je l'ai acheté il y a, je sais pas, peut-être 8 ans, quoi. Et si tu veux, en me disant, je vais en faire, non, peut-être pas 8 ans. Non, un peu moins 5 ans. Et en me disant, je vais en faire un truc, en lien avec la production française avec les fabricants français, etc. Mais j'ai jamais, enfin, il y a eu plusieurs versions dans ma tête, plusieurs machins, mais j'ai jamais réussi à trouver un concept autour de ce truc. Et pourtant, si tu veux, comme le nom me paraît très bon, je me focalise en fait dessus. Et donc c'est pas forcément un truc très très intéressant. Il vaut mieux avoir un bon concept bien développé, quitte à avoir un nom en fait moyen, en fait, parce qu'il y a plus grand chose de dispo, etc. Je pense que c'est mieux, en fait, comme parce que c'est un bon nom, mais que tu peux rien en faire.
Ça t'oriente aussi déjà beaucoup vers certaines choses, quoi.
Ça t'oblige, en fait.
Mais c'est marrant parce que sur Twitter, tu parlais de ce 14 juillet. Là, j'ai vu au détour d'un tweet, tu t'en parlais comme projet maudit.
C'est ça, c'est vraiment maudit. C'est passé par. Puis j'y arrive pas, si tu veux, en fait. Enfin, je voulais pas passer un temps, je voulais faire une sorte de dropshipping, en fait, faire envoyer les produits depuis chez les fabricants par les fabricants. Mais à part le fabricant de chaussettes, il y a Brousseau, en fait, qui est historiquement celui de l'archiduchesse, si tu veux, qui était à fond. Les autres, quand ils commençaient à en parler, ils étaient pas, ça les a pas emballés, si tu veux. Donc j'arrive pas à trouver un truc sympa à faire avec ça. Mais ceci dit, si tu veux, maintenant je l'ai mis de côté, hein, si tu veux.
Il faut savoir lâcher aussi, et puis peut-être ça reviendra plus tard. Peut-être que l'illumination reviendra plus tard. Et alors justement, parlons un peu maintenant des outils, parce que ça peut être aussi quelque chose qui drive des projets, quoi, qui permet de créer des projets, tu vois, de voir les possibilités des outils. Ça peut des fois se dire, ah ouais, tiens, maintenant je peux faire ça techniquement, peut-être que je pourrais l'appliquer à telle idée ou telle idée. Alors qu'est-ce qui t'a amené, toi, du coup, un peu sur les outils no-code? Alors comme on a dit, en fait, t'as utilisé. Le no-code, c'est vrai que c'est un mot, hein, c'est un truc un peu récent, ouais. En fait, bon, y a plein de choses qui existent depuis des années, mais un petit peu, bon, ce mouvement.
Ouais, parce qu'en fait, enfin, moi, je suis pas du tout développeur, à la base. C'est-à-dire que, enfin, je suis un peu designer, c'est-à-dire que j'ai fait à peu près toutes les chartes des sites que j'ai eues, mais, enfin, la partie graphique, si tu veux, mais, et après, je connais le HTML, je connais bien le CSS. Je peux bidouiller du PHP, etc., mais vraiment en bidouillant, si je peux pas le créer, si tu veux, il faut déjà créer pour que je puisse. Mmh. Voilà. Et puis en fait, je suis venu au no-code grâce à Animal Crossing pendant le confinement, parce qu'en fait, ma fille avait acheté Animal Crossing et je jouais presque plus qu'elle en fait au truc parce que je me faisais clairement chier. Et puis donc au bout de je sais plus combien de semaines, mais à jouer à ce truc, j'en ai eu marre en fait un jour. Puis j'ai posé la console et je me suis dit bon, enfin je surfais en fait sur internet, je sais pas ce que je cherchais réellement, et je suis tombé sur le site d'auto en fait, enfin des formations. Ouais. Et puis j'ai commencé à regarder, et puis enfin parce que les vidéos en fait, il me semble qu'il y avait plus de vidéos en fait gratuites à l'époque, mais bon, je sais pas, peut-être pas. Et puis je suis tombé sur une première vidéo, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était Adalo. Et donc je suis allé sur Adalo, je me suis inscrit, et là je me suis dit bon, Là, franchement, c'est mieux que Animal Crossing, ça va m'occuper pendant le confinement. Et donc, j'ai commencé en fait à bidouiller sur Adalo. Et puis après, je me suis intéressé. Enfin, après, j'ai voulu voir ce qu'il y avait d'autre comme outil, parce que je me suis dit, bah, ça, c'est un peu con en fait. Si, celui-là est vraiment bien, mais peut-être qu'il y en a d'autres en fait qui sont aussi bien. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, donc, depuis 6 mois là, je fais tous les matins, je fais de la veille, je regarde en fait ce que je trouve de nouveau, et en même temps je passe en fait des semaines complètes à m'intéresser à fond à un truc, à un outil, que ce soit Adalo, Integromat c'est plus qu'une semaine, mais à chaque fois que j'en trouve un vraiment sympa, ouais. Parce que j'approfondis le truc pour voir ce que ça peut faire, etc., histoire que ça m'ouvre en fait des perspectives et que je me dise bah tiens, là j'ai une petite brique à gauche avec ça, et là j'ai une autre petite brique à droite, si jamais je les mets ensemble ça peut faire ça. Et si tu veux, je suis dans ce processus-là, en fait. Donc, je regarde ce qui est possible, et puis, si jamais je trouve une idée, ben, je me rappellerai, si tu veux, que je peux le faire avec ci, avec ça. Avec...
D'ailleurs, j'invite vraiment les gens à suivre ton compte Twitter, parce que du coup, tu partages toute cette veille, toute cette recherche, enfin, tu mets plein de liens, tu commentes aussi un petit peu tes expérimentations, et c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que ça bouge énormément.
Ah, c'est ça qui est fou. Ouais.
Des outils, des choses qui sortent tous les jours. Quoi.
Alors, enfin, peut-être que ça bouge depuis très longtemps, hein, je pense, mais j'ai l'impression que là, ça prend une. Enfin, parce que je pense que c'est à cause du confinement, les gens sont un peu emmerdés, donc ils sont inscrits, etc. Mais j'ai l'impression que, parce que qu'il y a une sorte de. Que c'est vraiment parti, quoi. Que les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient faire des choses, en fait, eux-mêmes. C'est pas récent, mais.
Clairement, hein. Moi, je pense que le confinement, il y a plein de gens qui sont mis à la cuisine, ouais, qui sont mis à la couture, qui sont mis à plein de trucs comme ça, très do it yourself. Et aussi, à mon avis, nous, on a vu un pic d'inscription sur le Slack. Alors, ça a coïncidé aussi avec tous ces webinars qu'on a fait.
Ouais, puis c'est en train de se structurer, en fait. Enfin, alors, et en fait, si tu veux, enfin, je me suis fait une réflexion l'autre jour. Alors, en fait, si tu veux, les outils no-code ont toujours existé, c'est-à-dire que ce soit WordPress, peut-être pas toujours, mais voilà. Sauf que, c'est la première fois en fait dans l'histoire du web où ces outils en fait s'interconnectent. C'est-à-dire que en gros, avant t'avais WordPress, c'était compliqué si tu veux de l'associer. Enfin, sans code, c'était compliqué de l'associer à un autre outil. Si tu veux. Là maintenant avec Integromat, Zapier, etc. Ou peut-être même parfois, enfin certains sont eux-mêmes en fait style Airtable, ils automatisent eux-mêmes le truc. Mais en gros maintenant ils s'interconnectent et chaque enfin, que ça soit Airtable pour les bases de données ou Webflow pour le côté front, etc. Si tu veux, tout ça s'interconnecte et ça te donne des outils ultra puissants en fait au final. Et c'était pas le cas avant.
Ouais, non mais c'est vrai. En fait, je m'étais jamais vraiment formulé comme ça, mais en fait, on est passé. Et c'est vrai aussi dans la tech plus dure des développeurs, etc. Mais de l'âge vraiment des solutions monolithiques. Ouais. WordPress, c'est vraiment, si t'arrives pas à tout faire dans WordPress, enfin, si t'arrivais pas, en tout cas à l'époque, si t'arrivais pas à faire et ton e-commerce et ta logistique et tes machins, bah, t'étais foutu, quoi, parce que fallait que tu, bah, si t'arrivais pas à tout faire toi-même avec les plugins et machins qui existaient dans WordPress, bah, ta seule autre solution, c'était les développeurs, quoi. Maintenant, et nous, on est des fans aussi de cette approche, c'est un outil fait bien quelque chose, il y a des grandes chances, de toute façon, qu'il fera pas tout ce dont t'as besoin, et bah, t'y adjoins un autre outil, au moyen souvent effectivement d'outils comme Integromat ou Zapier, ou des fois d'intégration directe. Tu vois, si je reprends l'exemple de Typeform, qui est un des sujets du podcast récent, déjà dans Typeform, alors t'as Zapier, donc t'as tout ce qui peut s'intégrer à Zapier, mais aussi directement, par exemple, tu peux déverser dans Airtable ou dans plein de choses.
Non, mais à mon sens, c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui va en fait offrir des possibilités qui étaient... c'est ça qui offre des possibilités presque infinies, et puis surtout qui va en fait permettre aux gens en fait de créer des projets. En fait, à mon avis, il y a une typologie de personnes en fait qui a pas été adressée encore dans la création de services ou de boîtes, etc. C'est les gens qui sont créatifs mais qui ont pas les capacités techniques, et c'est
en fait il y en a beaucoup
désormais tout seul. Pour l'instant, c'est pas encore ultra bien, enfin tout est pas stabilisé, c'est-à-dire que c'est en mouvement, mais ces gens-là en fait ils vont pouvoir créer des choses, alors que avant c'était, ça leur paraissait impossible et ça l'était presque en fait. Donc
c'est clair, et c'est carrément une des raisons d'existence de ce podcast aussi, c'est justement démystifier ces choses-là, donner les partages d'expérience, tu vois, un petit peu comme je te disais avant qu'on commence à enregistrer. Mais voilà, tout ce que tu dis là, j'espère que ça inspirera des gens aussi qui se disaient avant, j'ai pas les compétences techniques, ou je connais pas de développeur, je peux pas lancer mon projet. Quoi.
Après, en fait, ça dépend des outils. Il y a des outils. Si tu veux, j'ai commencé par Adalo, puis après j'ai fait Glide. Donc Glide, c'est ultra simple. Airtable, c'est pas très compliqué à comprendre. Integromat, c'est déjà un peu plus technique, et si tu veux faire des trucs un peu avancés, il faut quand même y passer du temps. Et là, je me suis mis, j'ai pris une formation en fait pour Bubble, parce qu'en fait j'étais passé complètement à côté de l'interface m'avait un peu non, mais en fait, si tu veux,
on a le droit de le dire.
Dans Bubble, en fait, ce que je comprends pas, apparemment, ils sont en train de le rectifier, mais ils vont sortir une nouvelle version. Mais c'est la partie CSS, elle est complètement morcelée. Il y en a à droite, à gauche, tu sais pas. Et puis, les comportements pour le responsive, etc., c'est un peu chelou, quoi.
Ouais, le responsive, c'est vraiment le gros point faible de Bubble,
c'est
à mon sens.
C'est leur truc. Et par contre, ça m'avait dégoûté. Ça m'avait en fait freiné, si tu veux, dans la volonté d'apprendre Bubble. Et par contre, quand tu plonges un peu dans le truc, tu te rends compte que tu peux faire des trucs monstrueux avec Bubble. Et du coup, si tu veux, je me suis dit bon, je tout seul, je vais pas y arriver. Je suis pas développeur. Enfin, à la base, si tu veux, je connais quand même les principes, mais il me faut une formation. Donc là j'ai pris une formation je crois qu'il y a 15 ou 16 heures, je crois.
Tu l'as, t'as appris où, du coup? Chez Auto?
Non, c'est trop cher. Chez Auto, c'est 139 euros par mois. J'ai pris, c'est un anglais qui s'appelle, attends, comment il s'appelle? Merde, j'ai plus le nom. Ah, c'est, le nom de son site, c'est buildcamp.io. Et le mec, c'est Gregory John. Et il est ultra didactique. J'ai regardé plusieurs vidéos, en fait, gratuites qu'il avait faites. J'ai accroché avec sa façon en fait. Il est un peu lent, etc. Mais ça permet en fait d'assimiler le truc en fait. Et puis en plus, il fait des trucs. Il s'attache à faire des trucs ultra propres à chaque fois, ce qui est quand même pas évident avec Bubble, parce que c'est pas Webflow quoi.
Ok, non, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que nous en général on part pas beaucoup de ce qui est en anglais, mais c'est bien aussi de le partager, hein, parce que pour les gens qui ont accès, c'est vrai que en anglais, il y a beaucoup plus de choix et il y a des choses super.
Et puis, en fait, si tu veux, je parle assez mal anglais, je le comprends bien, mais lui, il parle, il a une bonne diction, si tu comprends tout ce qu'il dit. Et puis, ce qui m'a fait prendre le truc, c'est que c'était pas très très cher, c'est je paye 29 $, je crois, par mois. Donc, c'est un abonnement mensuel. T'arrêtes quand tu veux. Et pour l'instant, il y a deux formations, une débutant, deux énormes exercices. En fait, le premier fait 11 heures, je crois. C'est débutant. Et après, t'en as un peu plus avancé. Et il en sort un troisième bientôt. Mais je conseille, parce que c'est pour 29 $, c'est, il y a de quoi comprendre, si tu veux,
Après, c'est vrai que les prix, c'est vachement relatif aussi. Quand t'es en mode découverte, que t'as pas vraiment de projet, c'est sûr que t'as pas envie de trop investir, quoi. Tu vois, après, chez Auto, ils ont, tu sais, un bootcamp.
Non, non, mais je...
qui est intéressant, mais qui, à mon avis, a du sens si t'as un projet, quoi. Tu vois, aussi, ou alors, peut-être si t'es dans une démarche vraiment de devenir freelance Bubble. Non, mais c'est, C'est intéressant aussi hein, de parler de ces choses-là. Hein, parce que justement, c'était une des questions en fait que j'avais dans ma liste. C'était un petit peu comment tu te formes justement à ces différents soucis.
À part Bubble, parce qu'en fait, Bubble c'est quand même ardu. C'est-à-dire que, en n'étant pas développeur du tout, je pense que t'as quand même il y a une courbe d'apprentissage qui est un peu hard. Mais sinon pour le reste, en fait, je regarde Integromat par exemple, ils ont une doc interne qui est pas trop mal foutue, donc tu comprends en fait ce que et puis après tu regardes en fait ce qu'ont fait les autres, tu essaies de trouver des vidéos et puis en fait de façon empirique en fait je me forme vraiment en regardant.
Ouais, non mais je pense que c'est vraiment un peu la promesse de ces outils hein, c'est que normalement on doit réussir à les prendre en main et puis il faut faire des choses quoi. C'est déjà vrai pour le code hein, mais le code avant de commencer à pouvoir programmer, il faut quand même que tu apprennes quoi. Là, on va dire que en cliquant un peu partout déjà tu dois réussir.
Et si tu veux en fait enfin mon objectif en fait, enfin pourquoi j'ai pris une formation pour Bubble, parce qu'en fait à mon sens, c'est le seul outil en fait qui est capable de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire que Webflow en fait c'est tu peux faire du front, enfin un très très chouette site, enfin c'est ultra bien fait, j'adore l'outil. Par contre même en version CMS, tu veux il y a pas de logique, il y a rien, c'est juste ça t'affiche juste des données quoi, c'est pas et à mon avis
pas d'interaction.
Donc Bubble il est un peu tout seul dans son truc et à mon sens en fait je pense qu'en fait ce qui est en train de faire Bubble en fait c'est de faire un pas vers Webflow, et je pense que ce que va faire Webflow c'est un pas vers Bubble en gros, enfin je le sens comme ça en gros en fait je pense que Webflow va devenir va intégrer des trucs de développement. Et Bubble en fait va améliorer en fait son CSS, le responsive, etc. J'ai déjà vu passer un truc. Enfin, c'est le mec qui me forme en fait qui a tweeté sur Bubble notamment, où il disait en fait qu'il y avait une nouvelle version arrivée avec un Flex Engine en fait pour le responsive.
Ah oui. Ouais. Ok.
Et je sais plus quoi d'autre. Et une interface en fait revue. Bon, voilà.
Bah, effectivement, c'est vrai que ça pourrait les aider, mais c'est sûr qu'il y a une convergence. Par contre, c'est pas du tout la même approche. C'est-à-dire que Webflow, ils ont dit quand même à peu près officiellement là, au cours de l'année, tu vois, dans des podcasts et tout, qu'ils allaient effectivement ajouter module par module, en fait, comme ils ont fait, tu vois, le e-commerce. Là, bientôt, il y aura un système de membres. Comme ça, toutes les fonctionnalités qui, à la fin, vont te permettre de faire une plateforme, quoi. Tu vois, en gros, donc, un peu faire comme Bubble. Et puis, ils vont aussi, après ça c'est un peu des rumeurs, c'est un peu bizarre, mais tu vois, il y a eu des screenshots qui sont passés aussi de vraiment des moteurs de workflow, des trucs comme ça dans Webflow. Donc clairement ils vont vers là.
En fait, comme moi, il faut j'ai envie de choisir un outil histoire de le connaître vraiment bien pour pouvoir faire un premier petit projet, puis un deuxième, etc. Je suis obligé d'en choisir un, si tu veux, et le seul en fait qui me paraît viable. C'est Bubble en fait, parce que sinon sur tous les autres tu t'es obligé, enfin Webflow t'es obligé de prendre 14 plugins, enfin un truc pour les membres, enfin passer par membership ou je sais pas quoi qui coûte $30 et puis qui est pas Webflow quoi. Et à mon avis, pour l'instant Bubble il est vraiment tout seul dans sa catégorie. Il y a quelques autres trucs, quelques autres sites, enfin quelques autres services que j'attends en fait. Il y a genre Builder e-code, en fait, y-code, mais t'as l'impression, parfois, en suivant les trucs, t'as l'impression que des outils vont jamais sortir, donc il faut que tu m'arrêtes sur un outil à connaître.
Ouais, et puis quand ils sortiront, ils pourront pas tout faire non plus. Enfin, Bubble a énormément d'avance, tu vois, je veux dire, réalistement. Moi, effectivement, y-code, ou je sais pas comment on prononce, je l'attends pas mal, parce que j'aime bien MailerLite, et on avait rencontré le CEO à la NoCodeConf l'année dernière. Mais par contre, Builder, j'aime bien, tu vois. Bon, là, on est vraiment dans des trucs d'insider du no-code. Mais Builder, pour moi, c'est l'impression, c'est un truc qui va jamais sortir. Tu sais, comme il y a des jeux vidéo comme ça, qui sont mythiques, tu vois, pendant des années, puis en fait, ça sort jamais.
Dans ceux qui vont jamais sortir, j'ai l'impression, il y a aussi Play, en fait. Enfin, Create with Play, ils font des applis mobiles, depuis le mobile. Alors, ils font des vidéos qui sont magnifiques où tu vois les trucs défiler, les mecs créent en fait des blogs, des images, etc. C'est magnifique, mais ça fait en fait 6 mois que je suis le truc et pour l'instant il y a rien qui.
Ouais, c'est un peu comme le Fire Festival.
Ouais, c'est ça.
Mais bon, on verra. Non, mais tout ça est passionnant à observer. Hein. C'est vrai que moi, j'adore aussi, comme on dit, le no-code game, quoi. Regarder tous ces outils qui vont, qui viennent, les rumeurs, tout ça, c'est passionnant. Et au-delà du côté amusant, à mon avis, ça présage quand même des choses hyper intéressantes.
Un autre avantage, en fait, de Bubble, mais bon, enfin, Webflow est un peu, c'est l'infrastructure. C'est-à-dire qu'en gros, si jamais si jamais je fais un truc qui fonctionne pas trop mal, je sais que je pourrais en fait faire grossir les serveurs, etc. Enfin, que ça c'est déjà prévu, si tu veux. C'est pas, enfin, je dis pas forcément que ça va arriver, hein, que mon truc va cartonner, mais
c'est bien d'avoir le choix. Après, ça coûte cher sur Bubble, mais bon, comme ils disent, c'est un peu quand t'as des problèmes de riches, normalement tu dois pouvoir payer.
Quoi. Mais je trouve que c'est parce que tu peux passer par d'autres plateformes qui sont plus petites, etc. Effectivement, tu sais pas qui est derrière, tu sais pas combien de temps ça va durer, et puis tu sais pas en fait si ça tient la charge, voilà. Donc
bien sûr, c'est un peu le problème avec Adalo actuellement.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que Adalo, moi honnêtement, je trouve qu'en termes d'ergonomie, c'est très au-dessus de Bubble. C'est pas du tout au même level de fonctionnalité, évidemment. Mais ça va venir, hein. Déjà, là, avec la marketplace qu'ils ont sortie, ça étend énormément les fonctionnalités, etc. Par contre, on n'est pas rassuré sur les performances, quoi. Je veux dire, tu sais pas si t'as un client qui fait une appli sur Bubble et puis, sur Adalo et puis qu'il commence à avoir justement ce succès. Ouais. Est-ce que ça va tenir?
Tu le vois même, en fait. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait quelques tests. En fait, tu vois, quand les US se réveillent, t'as une baisse, en fait, de la
fumée. Ah ouais.
C'est vrai. Mais ceci dit, Adalo, je crois que c'est une des grosses boîtes qui a pas encore levé en fait beaucoup.
Ils ont fait une levée,
Initiale, mais c'est du love money ou je sais pas quoi. Mais ils ont pas en fait.
Mais ils sont pas très gros
non,
encore.
Ils sont pas très gros. Mais je pense que
ils sont très jeunes. Enfin.
Mais je pense que le jour où, enfin, je pense que c'est, à mon avis, ça va arriver, hein, parce que leur outil est tellement bien fait que.
Bah moi, c'est ce que je leur souhaite. Hein. C'est un peu le pari qu'on fait. C'est pour ça qu'on a une formation à Adalo et pas à Bubble, par exemple. Je pense que c'est ils se sont lancés bien après, mais donc ils profitent en fait de toutes les erreurs entre guillemets de Bubble pour capitaliser. Donc après, il faut voir est-ce qu'ils vont réussir à délivrer les fonctionnalités, la stabilité, etc.
Si tu veux, moi j'adore l'utiliser, mais effectivement en fait le rendu un peu, déjà c'est lent. Puis tu peux pas faire non plus exactement ce que tu veux, et notamment un truc qui m'hallucine, c'est qu'en fait il y a même pas de version web. En fait, la version appli en fait qu'ils ont, c'est une version tablette, c'est-à-dire que c'est une web app.
C'est en gros la version de l'app centrée au milieu, à peu près avec des marges sur les côtés, mais
en plein écran. Mais c'est bon. Et puis t'as pas non plus de CSS dans Adalo. Enfin, c'est
non, ça c'est vrai. Mais ça c'est quelque chose aussi. Alors je comprends, toi, tu peux avoir une frustration par rapport à ça, mais c'est vrai que nous on trouve que c'est bien aussi pour les gens, éviter que les gens se perdent. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début. Tu vois, se perdent dans la technique et oublient le projet, quoi. Tu vois, et nous on croise des gens, c'est vrai qui sont encore novices, tu vois, dans le lancement de projets numériques et qui vont passer des heures à choisir leur logo, les couleurs, les trucs, tu vois.
Là, peut-être qu'ils devraient en fait faire. Enfin ouais, mais t'as raison. Enfin, ils devraient peut-être que les logiciels en fait, enfin ou les sites devraient faire en fait une option. Tu coches, t'as pas de CSS, tu fais tout en fait en glisser-déposer, etc. Et puis tu décoches et t'as toutes les options. Mais
un mode expert. Ouais. Quoi.
Parce que en fait, c'est vraiment, sur Bubble, c'est à se tirer les balles, hein, mais il manque même en fait des trucs. Enfin, par exemple, l'autre jour, j'ai mis un drop down en fait, un menu déroulant. Et ben, il y a du padding en fait sur absolument tout ce que tu veux, enfin sur le texte machin, mais pas sur le drop down. Et on sait pas pourquoi. Ça, c'est
Je vois bien le problème, mais bon, je pense que c'est pareil, c'est des choses qui vont améliorer. Mais c'est vrai que déjà le moteur de Bubble aujourd'hui quand même est très impressionnant, quoi.
Donc je continue la formation encore 5 jours.
Ouais. Et alors juste comme ça, alors pour finir un petit peu sur ces outils, mais c'est quoi, toi, tu dirais un petit peu tes outils préférés? Enfin, t'en as évoqué plein, mais
mes préférés, je sais pas, sans donner d'ordre, parce qu'en fait, il y a effectivement Adalo que j'adore, mais je l'adore, mais je sais pas trop ce que je pourrais en faire vraiment, si tu veux, pour l'instant. Je dis ça parce qu'en fait, je pense que l'appli que ça te génère, elle est effectivement trop lente. Et puis il y a quelques petites, il y a quelques fonctionnalités qui sont pas présentes, donc c'est compliqué d'en faire des trucs que tu peux réellement en fait soit vendre, soit soit montré.
Ouais.
J'aime bien Glide aussi, mais c'est pareil. En fait, Glide, t'as l'impression. Enfin, si tu veux, en fait, j'ai été un peu négatif, mais en fait, j'adore tous ces outils. Hein, mais Glide, en fait, si tu veux, le problème de Glide, c'est que tu reconnais l'appli en fait à 10 mètres, quoi. C'est-à-dire que c'est les mêmes templates, les mêmes. Et puis, tu peux pas faire non plus exactement ce que tu veux. Par contre, c'est ultra rapide, ultra marrant à utiliser. J'adore Webflow, mais Webflow, tu peux pas faire. Donc Webflow vraiment pour faire un site statique ou un blog, quoi. Mais Webflow est génial, l'interface est géniale. J'adore Integromat, parce qu'en fait, Integromat, en fait, ils ont à la fois la puissance en fait technique, c'est-à-dire que tu peux vraiment faire des trucs incroyables, et en même temps une interface qui au départ te paraît un peu bizarre, mais qui est en fait ultra agréable à utiliser, c'est-à-dire que tu prends un vrai plaisir à appuyer sur le run pour voir en fait les trucs tourner, passer de l'un à l'autre, etc.
C'est vrai qu'on n'a pas cette sensation avec Zapier.
Mais
par
Zapier
exemple.
Est bien plus vieux, je crois. Ça se voit en fait. Donc j'aime moins Zapier, effectivement. Je m'en sers que quand ce que je veux est pas dispo sur Integromat.
D'ailleurs, si je veux bien que tu t'as fait un truc hyper intéressant que t'avais filmé sur Loom. Génération là de t-shirts. Je sais pas si tu veux, parce que je mettrai le lien après dans les notes, parce que j'avais trouvé ça assez chouette. Si tu veux raconter juste, parce que tout repose sur Integromat.
Alors il faudrait que je reprenne le truc, mais en gros, c'était pour générer en fait. Attends, je vais regarder si. Non, en gros, c'était pour générer en fait. Donc en gros, avec Integromat, je surveille un compte.
En fait, ça part d'un tweet.
Je surveille un compte Twitter. Je récupère le contenu du compte Twitter et je l'envoie en fait dans une API qui s'appelle HTML CSS to Image et qui est une API payante qui coûte $14, je crois. Mais eux, ils te transforment. Enfin, le service est incroyable. Ils te transforment en fait du HTML avec du CSS en PNG. Et tu choisis la taille, tu peux faire un truc. Enfin, je crois que les images que je faisais, elles faisaient 4 ou 8 000 pixels, je crois. Donc ça peut partir à l'impression. Et donc voilà. Et une fois que j'avais en fait cette image, l'idée, ça aurait été en fait de la poster sur un Shopify. Enfin, de créer un produit sur un Shopify avec un montage, etc. Et techniquement, je pense que c'est possible. Après, si tu veux, le concept m'a fait marrer une semaine, mais c'est pas. Enfin, je me vois pas faire ça, quoi. Mais par contre, c'est effectivement là où tu vois que c'est ultra puissant, quoi. Enfin.
Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, t'as poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Tu vois, déjà à titre éducatif, ça t'a permis de te former, je pense, enfin de creuser encore plus Integromat, et puis quand même de prototyper un truc. Enfin, il y a des gens qui ont lancé des idées, enfin des boîtes avec des idées moins poussées
que ça. Ouais, mais après, il faut que commercialement, je sente qu'il y a un potentiel, si tu veux, parce que.
Bien sûr.
Mais là, si tu veux, effectivement, en fait, j'ai fait ça. En fait, c'est comme ça en fait que je fonctionne. Si tu veux, moi, il me faut un truc concret pour apprendre en fait quelque chose que je connais pas. Et en l'occurrence, là, c'était les API, intégrer une API en fait dans un scénario Integromat. Et du coup, l'idée en fait m'a motivé en fait à le faire et à essayer de comprendre. Et puis voilà, j'ai fini par comprendre. Et il y a une autre API qui est géniale aussi qui s'appelle BrainFetch. Eux en fait, alors, par contre c'est très cher. Enfin, t'as 100 appels gratuits je crois par mois, et après ça passe à 139 par mois. Et eux en fait leur truc c'est ils récupèrent donc Brain comme marque, et en fait ils récupèrent le logo, l'icône, le jeu de couleurs en fait d'un site et l'ensemble en fait des comptes des réseaux sociaux. Donc en gros tu peux faire un appel et tu récupères le logo, leur compte Twitter, leur compte Facebook, enfin c'est vachement bien fait.
Et tu dois juste donner le nom pour récupérer ça, tu donnes juste le nom de la marque.
Ouais, c'est ça. En fait, tu peux mettre une URL ou le nom de la marque et j'ai l'impression en fait que s'il l'a pas en fait déjà fait, le script en fait part et il te récupère le truc. Enfin, si jamais il connaît pas la marque, s'il l'a pas déjà en fait dans la base.
Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Écoute, on commence à arriver sur la fin. On a évoqué plein de choses, ça c'était hyper intéressant. Est-ce que il y a un outil qui te manque que t'aimerais voir, que t'aimerais justement, t'as évoqué un peu les ce que t'attends un peu, mais est-ce qu'il y a un truc que tu vois même dans un autre contexte peut-être?
L'outil que j'attends c'est le bébé de Webflow et de Bubble, quoi. En gros, c'est ça en fait. Enfin, si tu veux, qui aussi puissant que Bubble techniquement. Donc enfin sans dire que je comprends même le quart de ce que Bubble est capable de faire, mais au moins me sentir, si tu veux, en fait à l'abri techniquement, me dire voilà, si jamais tu creuses bien, tu vas pouvoir le faire avec cet outil, et en même temps que ça soit en fait que ça soit capable de faire des choses qui sont des sites qui sont chouettes, quoi.
Ouais, visuellement, quoi. Sur le côté vraiment pouvoir bien maîtriser le côté visuel.
Donc voilà.
Ok. C'est une question un peu difficile. En plus, tu as partagé plein de choses déjà, mais est-ce que t'as quelques petits conseils peut-être que tu voudrais partager avec des no-codeurs qui veulent se lancer sur des projets, des choses comme ça.
Je sais pas si c'est vraiment un conseil, parce qu'en fait il faut avoir du temps. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça avait marché pendant le confinement. C'est que malgré tout, même si c'est pas du no-code, en fait ça prend quand même. Enfin, moi ça me prend beaucoup de temps parce que j'ai vraiment tout, mais même pour se pencher sur ne serait-ce que sur Integromat ou Bubble, il faut avoir quelques jours devant soi, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça en fait une demi-heure par jour, enfin ça me paraît pas. Voilà, il faut juste être capable de se dégager un peu de temps pour si on veut vraiment en fait comprendre. Et
c'est bien que tu dis ça, parce que je pense que c'est un peu un écueil où, tu vois, les gens se disent, OK, bon, ces outils, tu vois, c'est facile à prendre en main, machin, ça va vite. Hop, tu sais, dès la première utilisation, t'as un petit feeling. Ouais. Donc, et tout de suite après, tu te dis, OK, je vais pouvoir lancer mon truc. Mais non, il faut d'abord se prendre en main l'outil. Déjà, il faut décider quel est l'outil qu'on préfère. Et pour ça, déjà, il faut tous les tester. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien ton approche et le fait que tu la documentes tout le temps sur Twitter. C'est que tu testes un peu tout, fais beaucoup de veille pour après voir ce que t'as envie d'utiliser.
Ouais. Puis, en fait, si tu veux, je vois aussi, en fait, là où s'arrêtent les outils. C'est-à-dire que, je vois en fait ce que je pourrais pas faire avec, et si jamais je me dis bah ça c'est dommage, parce que c'est même si j'en ai pas envie maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Donc mais ne serait-ce que, si tu veux, pour Bubble, il faut du temps, parce qu'en fait j'ai fait peut-être 3 ou 4 fois, si tu veux, des essais d'appli en essayant de me concentrer un peu, et puis j'ai laissé tomber, puis j'y suis revenu 2 semaines plus tard, et puis etc. Et puis, si tu veux, là j'ai fini par rentrer dedans, mais ça prend vachement de temps, en fait. Enfin, tu peux pas faire ça, si tu veux, le soir dans la télé, quoi. C'est impossible.
Ouais, surtout pour Bubble. Ouais. Alors, j'ai une dernière question qu'on pose à chaque épisode, du coup, qui est: est-ce que tu as un side project que tu fais en no-code? Mais alors, du coup, toi, c'est un peu différent, tu vois, parce que ce que j'ai envie de te demander, justement, un peu pour conclure, et tu l'avais évoqué tout au début, tu vois, c'est un peu, OK, maintenant, c'est quoi le futur, tu vois, pour toi? C'est quoi les side projects, les idées, les choses que tu auras envie de faire?
En fait, non, si tu veux, c'est ça, en fait. Enfin, là, en ce moment, c'est une des raisons qui me pousse à regarder tout ça en détail, c'est que pour l'instant, j'ai pas de side project, et pour l'instant, ce que j'ai envie, c'est de me former, en fait. Enfin, si tu veux, j'ai 49 ans, enfin, j'ai fait du web, etc. avant, mais si tu veux, ça va tellement vite que t'es dépassé. Et puis, si tu veux, j'ai l'impression, en fait, avec le no-code, que je reprends, en fait, si tu veux, j'avais un peu laissé, enfin, pas laissé tomber, parce que je connais tous les outils de e-commerce, etc., mais que je reprends le train en marche, tu veux, et qu'il y a plein de choses qui vont se passer, et, si tu veux. Et donc, du coup, après le confinement, je me suis dit, bah, pendant un an, tu fais que ça. Tu regardes, tu t'apprends, et voilà. Donc en gros, c'est ça. Pour l'instant, j'apprends, et puis une fois que je saurai à peu près me servir bien d'un outil, à ce moment-là, en fait, je commencerai à réfléchir, peut-être même avant, hein, mais bon, à ce moment-là, je commencerai en fait à mettre en place quelque chose. Mais pour l'instant, je me forme.
Ah, c'est super d'avoir le temps et le luxe de pouvoir faire ça sans se mettre la pression. Mais à mon avis, c'est ça aussi qui peut permettre de faire éclore les meilleures idées, quoi.
Et puis en fait, en parallèle du no-code, effectivement, ce que j'adore, c'est tout le mouvement, en fait, indie hacker, etc. Je trouve qu'il y a plein de, enfin, c'est vachement, enfin, c'est motivant. Et puis je trouve ça vachement sain. Si tu veux, les mecs veulent pas monter des startups à 3 milliards. En fait, ils veulent juste, en fait, la plupart, ils veulent juste, en fait, avoir
pour en vivre.
Vivre, en fait, et que ça grossisse, etc. Et je trouve que c'est une super bonne approche, en fait, c'est une approche, en tout cas, qui me convient mieux que celle des mecs qui montent des startups, parfois un peu.
Avec des grosses levées de fonds et compagnie, ouais. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Et c'est marrant parce que les indie hackers, là-bas, ça vient, c'est surtout des développeurs. Mais pour moi, il y a un lien très fort avec le no-code, parce que c'est la promesse, justement, d'étendre cette philosophie que tu viens de décrire aussi à des gens qui, avant, n'avaient pas accès à ça, parce que parce que les outils ne permettaient pas de se lancer comme ça tout seul son projet.
Et puis ce qui est marrant, c'est qu'en fait, comme je fais de la veille, en fait, sur Twitter notamment, je fais de la veille avec le hashtag NoCode, donc je regarde absolument tout ce qui tombe. Et c'est marrant parce que tu peux identifier en fait des pays où c'est plus, enfin où il y a plus de fans du NoCode que d'autres.
Ah ouais. Et alors par exemple,
les Japonais ils sont ultra fans de Adalo. T'as l'Inde, enfin un Pakistan, etc. Et parce que je pense qu'en fait ils sont, enfin il y a beaucoup de développeurs en fait en Inde et puis à mon avis, enfin. Et donc c'est des pays en fait où ça prend mieux. Enfin, il y a des pays où ça prend mieux que d'autres en fait.
Ouais, dans le Japon d'ailleurs que j'aime beaucoup. J'aimerais bien prendre contact avec des gens là-bas. J'ai identifié les gens qui étaient derrière cette fameuse appli Adalo qui a été revendue. Enfin, un peu le buzz. Et c'est dans ma liste, dans ma to-do de les contacter. Mais en fait, c'est juste que par les temps qui courent, comme je sais que de toute façon je pourrais pas y aller, je sais pas quoi leur dire et quoi faire avec eux à distance.
Pas du tout.
Donc c'est ça aussi qui met un petit frein. Bon, j'ai vu qu'il parlait anglais a priori, mais c'est vrai que c'est pas pareil, quoi. On verra, ça c'est à suivre. Écoute, super, merci beaucoup. Du coup, à part sur Twitter, où évidemment je mettrai le lien et vraiment j'invite les gens à te suivre pour savoir déjà ce que tu vas faire, tu vois. Après tout ça, on est quand même maintenant on a un patient aussi de savoir ce que tu vas faire de tous ces outils.
Je vais pas te mettre la pression.
déjà juste la phase d'apprentissage est hyper intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres endroits du coup?
Non, en fait, principalement sur Twitter, en fait, je regarde un peu LinkedIn de temps en temps, mais j'ai l'impression d'être devant une machine à café à la Cogib. Twitter.
Ouais, je vois bien. Même si on essaye un petit peu de s'y mettre un petit peu plus,
parce que visiblement, c'est en train de devenir en fait un canal vachement important, mais parfois c'est un peu, enfin après je suis tout le monde, tu vois, donc forcément c'est pas intéressant, quoi. Mais
je pense qu'on a tous un peu pourri nos LinkedIn pendant des années à accepter tout le monde sans discrimination, et puis du coup là maintenant qu'on essaye de s'en servir, c'est vrai que c'est un peu différent
en fait, et remettre au fur et à mesure, mais bon, je sais pas si c'est possible.
Ouais, ou alors faire de la curation sur son au fur et à mesure, et ne plus suivre les gens, mais c'est du travail. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec LinkedIn en fait aujourd'hui, c'est que ça permet de sortir aussi un peu de la bulle no-code. C'est-à-dire que j'adore Twitter et tous ces échanges qu'il y a autour du hashtag no-code et les gens et tout. Mais t'es dans une bulle quand même, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on suit les mêmes gens, on est donc un peu moins en sortir. Et donc, du coup, c'est vrai que nous, dans notre mission un peu, on va dire, d'évangélisation, on a besoin aussi d'aller toucher d'autres gens qui sont pas encore convaincus. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Écoute, super. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis, à très bientôt, alors.
Salut.
Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, surtout. Alors, si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Vous me disiez ce que vous avez pensé de l'épisode. Et puis, si vous avez des questions, pourquoi pas. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie, peut-être, de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si c'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert, eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io, vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert, ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.